Lucie Mandeville, bonjour.
Oui, bonjour Marianne.
Vous êtes psychologue, auteure, conférencière, professeure au département de psychologie de l'Université de Sherbrooke et j'aimerais débuter cette conversation avec une petite citation d'Isabelle Ducharme. Elle le dit, et je la lis finalement, « Ma qualité de vie vient de ma force intérieure, de ma joie de vivre, du soutien de ma famille, particulièrement de ma mère et de mes amis. Pour être heureux, selon moi, il faut savoir s'entourer et s'adapter au quotidien. J'aime la vie, je la prends avec ses hauts et ses bas. » Est-ce que c'est ça, le secret ou l'un des secrets, Lucie Mandeville, des gens heureux?
Ben, c'est l'un des secrets, certainement. Elle a nommé des choses qui sont vraiment importantes, s'entourer de personnes qui nous font du bien, s'adapter, avoir une vision positive de la vie du quotidien. C'est certainement parmi les critères qui sont les plus importants pour être heureux.
Oui. Lucie, Isabelle a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, juste avant cette entrevue. Elle a dit, on va peut-être comprendre pourquoi on est qui on est. est-ce que le bonheur, être heureux, tout le monde est égaux devant ça?
Non, effectivement, malheureusement, puis heureusement pour ceux qui le sont, là, on dit avec la recherche qu'il y a à peu près 50% qui reposent sur ce qu'on appelle les gènes du bonheur. Il y en a qui naissent avec une facilité à être heureux, puis il y en a d'autres qui naissent avec une plus grande difficulté. Puis pourquoi c'est comme ça? C'est que, bon, c'est tout ce qu'on hérite de traits physiques de nos parents, mais c'est la même chose pour les traits de personnalité. On n'est pas la réplique de nos parents, mais on a des traits qui sont héréditaires, et ces traits-là font qu'on va réagir d'une certaine façon face aux événements. Et c'est vraiment cette réaction-là qui semble être la plus déterminante. Bien, 50%, là, une bonne partie, là, et repose sur la façon dont on réagit aux événements. Donc, même si quelqu'un a beaucoup d'épreuves dans sa vie, si elle a une belle façon de réagir à ces épreuves-là, bien, elle va se sentir aussi heureuse qu'une personne qui n'a pas d'épreuves dans sa vie.
50%, mais il en reste un autre 50%.
Tout à fait. Ce qui nous fait dire que le bonheur s'apprend, là, on n'est pas déterminé complètement. Puis même la façon de réagir face aux circonstances, on peut la travailler, on peut apprendre, on peut s'intéresser à comment les gens heureux le font, puis les imiter, si on peut dire, faire pareil. Puis effectivement, là, ça s'apprend, puis c'est possible d'être plus heureux qu'on l'est si on ne l'est pas beaucoup.
Donc, on a une responsabilité envers notre bonheur.
Oui, face à ce que je viens juste de vous dire, je dirais qu'à la limite, on a 90% de responsabilité.
Ah oui?
Parce que ce que je veux dire, c'est que dans la recherche, quand on dit que 50% repose sur les gènes, on a découvert que les circonstances de la vie ne font que 10%. Il y a un 40% qui repose sur les choix qu'on va faire, mais le 10%, ce que ça veut dire, c'est peu importe ce qui arrive dans votre vie, ça vaut, ça compte. Quand il y a un grand malheur qui arrive dans votre vie, c'est important, mais ça vaut 10% quand on compte l'ensemble des années qu'on passe là, dans notre existence. Alors, je dirais 90% repose sur le pouvoir qu'on a de faire avec les événements qui nous arrivent. C'est une grande responsabilité. En même temps, faut pas sentir le poids de cette chose-là. C'est, je dirais, une grande possibilité. J'aime mieux formuler ça comme ça.
Ouais. Tout à l'heure, Isabelle disait que suite à son accident, elle s'est plutôt dit, je vais focaliser sur ce que je suis capable de faire encore, au lieu de ce que je suis plus capable de faire. Bon, j'imagine que c'était déjà une façon de viser le bonheur. Et sa mère, Mireille, a dit, ben moi, je regarde Isabelle, je m'inspire d'elle pour être heureux, et elle est ma force de vivre. Donc, elles ont eu ce réflexe-là de s'aider entre elles suite à ce grand malheur qui a été l'accident d'Isabelle.
Oui, puis je dirais, ce qu'on apprend d'elle, c'est, puis qui est en lien avec ce qu'on découvre aussi, c'est que l'humilité qui vient avec, par exemple, un handicap, l'humilité, c'est un des facteurs qui contribue le plus au bonheur. C'est fou en même temps, c'est contre-intuitif, mais quand on se place dans une position où on va apprécier, par exemple, les choses de la vie, puis qu'on se sent pas comme le grand responsable de la vie, on va avoir ce qu'on appelle la gratitude. Mmh. Alors ça, la gratitude, savoir dire merci à la vie, savoir reconnaître ce que les gens nous apportent, par exemple, c'est vraiment un facteur qui va changer pour certaines personnes drastiquement leur attitude par rapport aux circonstances.
Isabelle, tu aimerais ajouter quelque chose?
Oui, mais en fait, j'allais dire, dans mon cas, de regarder des gens autour de moi en réadaptation qui étaient, malgré le fait que je bougeais pratiquement pas, il y avait des gens alentour de moi dans les autres chambres qui n'avaient pas de visite, qui bougeaient encore moins que moi, qui avaient plus de problèmes secondaires de santé. Donc, c'est une espèce de, c'est ça, se comparer puis arrêter de dire, mon Dieu, c'est horrible ce qui m'arrive, mais il y a des choses qui arrivent aux gens alentour de moi aussi.
Tout à fait, puis j'irais plus loin. Ce qu'on découvre, c'est quand on est sensible à la souffrance des autres. Tu sais, quand on se compare, mais dans le sens de « je suis bien chanceux d'avoir ce que j'ai », ça, c'est aussi quelque chose qui a un impact sur nous. Quand on est sensible à eux, puis on dit que le bénévolat, d'ailleurs, je pense que c'est bien d'en parler ici, le bénévolat, donc l'aide qu'on va apporter à ceux qui souffrent davantage ou qui sont dans une position difficile, ça va contribuer, je dirais même plus à la personne qui va le faire, qui va tendre la main vers l'autre qu'à celle qui va en profiter. Puis pourquoi? Il y a plein de raisons qui fait que quand on aide quelqu'un qui souffre, on se sent heureuse parce que d'abord, on se sent utile, on ne se sent pas tout seul, on retrouve notre valeur personnelle et le sourire de l'autre, celui qui profite de nos services, par exemple, ça nous, c'est contagieux, ça nous rend heureux.
Ouais. Là, vous ne voyez pas Mireille regarder sa fille avec tant d'amour et se dire, ben, ça doit être pour ça que je suis si heureuse. Il reste peu de temps, Lucie, à notre discussion, mais j'aimerais qu'on prenne ce temps-là pour donner des outils concrets aux bougons éternels qui nous écoutent et qui aimeraient bien avoir des trucs pour être heureux.
Ça n'est un concret, celui que je viens de nommer, c'est même si on est dépressif, même quand on passe un moment difficile, la meilleure chose à faire, c'est de sortir de chez soi puis aller rendre service à quelqu'un. Puis on ne sait pas comment ça peut changer notre vie. Alors on a tendance à dire on va rester en dedans, on va s'apitoyer un peu sur notre sort, on va prendre, à la limite, on va dire on va prendre soin de soi, il faut le faire un peu, mais il faut aussi sortir dehors puis aller vers les gens. Ça n'est un. Il y a plein de trucs, je dirais. Un des trucs, c'est de faire des exercices, même à la mesure de nos possibilités. On sait que de bouger, peu importe les parties de notre corps, ça, c'est en lien avec les hormones qu'on appelle la sérotonine, la dopamine, qui va créer ce sentiment-là de bien-être.
Et aussi, oui? Je vous coupe parce qu'il reste quelques secondes, on peut lire vos livres, Lucie Mandeville, Malade et heureux, soyez heureux, sans effort, sans douleur, sans vous casser la tête. Et il y en a un autre aussi, tout ça aux éditions de l'Homme. Lucie Mandeville, vous êtes formidable, j'adore ce que vous faites. Et vous êtes psychologue, auteur, conférencière, professeur au département de psychologie de l'Université de Sherbrooke.
Bien, merci beaucoup, Marianne, et vous trois.
Merci beaucoup, à une prochaine fois, Lucie Mandeville.